Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
Bonjour Sophie!
Salut Séverine.
Je suis ravie de t'accueillir pour le podcast. On se connaît depuis 2 ans. Tu étais une figure très active sur Clubhouse, le réseau social où je fais régulièrement des rooms. Et c'est là-bas que je t'ai rencontrée. Donc, je vais bien sûr te laisser te présenter, mais tout a commencé sur Clubhouse. On va parler aujourd'hui de ton métier. On va parler d'hypersensibilité. On va parler aussi d'astuces et de petites choses à mettre en place pour aller mieux. Comment as-tu envie de te présenter aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, déjà, je suis très, très contente de faire cette interview avec toi, Séverine. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on se connaît et quel parcours en 2 ans. Hein. On n'a pas fait que Clubhouse, on a fait plein de choses ensemble. Et je suis super contente de cette invitation dans ce podcast. Donc déjà, je tenais à te remercier. Tu m'avais proposé de me présenter personnellement et professionnellement. Et c'est vrai que c'est rare qu'on me demande ça. Donc je vais me présenter personnellement, c'est intéressant. Personnellement, je suis une maman de 2 enfants à moi, mais j'ai aussi un beau-fils à temps plein chez moi, que j'élève. Donc, je dis parfois 3 enfants, mais la réalité biologique, c'est 2 enfants et 3 garçons, en fait. On a 3 garçons à la maison. J'ai déménagé 23 fois, donc je suis un peu de partout, de nulle part. On était expatriés, étant enfant, donc je pense que ça a eu un impact dans mon parcours et dans ma profession aussi. J'ai vécu à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, à 4800 mètres d'altitude au Pérou, notamment. C'était peut-être le plus marquant. J'ai vécu au Portugal, en France, dans plusieurs endroits aussi, un peu aux États-Unis. Je suis ingénieure télécom de formation, mais je suis aussi une ancienne gymnaste de haut niveau avec beaucoup de séquelles physiques, de douleurs chroniques que j'ai appris aussi à apprivoiser en même temps que mon hypersensibilité. C'était assez intéressant de se rendre compte que finalement, les clés pour l'un marchent pour l'autre. Et aujourd'hui, après 2 grossesses compliquées, 2 césariennes, etc., je me rends compte que ces clés m'aident en permanence. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup de parler aussi de douleurs chroniques en plus d'hypersensibilité. Donc voilà pour me présenter personnellement, on peut dire mon âge, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis une vieille dame comme j'aime bien le dire, parce que quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, je trouvais que les dames de 46 ans étaient des vieilles dames, donc aujourd'hui je me rends compte rétrospectivement de la drôlerie de la chose, mais de voir qu'il y a une sagesse quand même qui apparaît à notre âge, hein, je crois qu'on a le même âge, et qui fait que on a des perspectives différentes et qu'on est content d'avoir fait un parcours de développement personnel et de développement professionnel quand on arrive à notre âge. Encore plus peut-être que plus jeune, parce que c'est comme ça qu'on peut envisager sereinement vraiment l'avenir. Et ça, c'est important aussi à notre âge. Et professionnellement, j'ai lancé mon cabinet de coaching il y a 13 ans, en revenant de San Francisco, où j'ai été certifiée coach par la Fédération internationale de coaching. Donc, je suis coach professionnel PCC. Et je suis aussi certifiée professeur de coaching intégral par mon école. J'enseigne aussi cette méthode de coaching intégral. Et aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, je me focalise essentiellement sur les hypersensibles. On en a accompagné plusieurs centaines, donc j'accompagne en tout plus de 1000 clients. On les aide véritablement à faire de cette hypersensibilité une force, d'arrêter de la subir, d'arrêter aussi de croire que l'hypersensibilité en elle-même est un problème et de voir quelles sont les ramifications réelles problématiques de l'hypersensibilité. Voilà, c'est tout ça qui m'anime. Et une de mes missions, c'est aussi de tordre le cou à toutes les idées reçues et aux fausses idées qu'il y a autour de l'hypersensibilité et qui fait souffrir les hypersensibles, en fait.
Donc, au début, tu n'avais pas orienté spécialement ton activité professionnelle autour de l'hypersensibilité. Comment c'est arrivé le fait d'intégrer un peu cette partie de toi perso dans le côté pro ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a plus de 20 ans et je ne l'ai pas annoncé tel quel parce que pendant longtemps, je crois que, comme beaucoup, j'en avais honte en fait. En tout cas, en fait, j'en avais honte parce que j'ai appris à l'aimer, mais je ne pensais pas qu'elle serait bien accueillie, en tout cas dans le milieu socio-professionnel et culturel dans lequel j'évoluais. C'est-à-dire, bah, moi, j'ai quand même fait, voilà, maths sup, maths spé, j'avais un an d'avance, sportive de haut niveau, championne de France de tumbling, j'ai fait les mondiaux. Et en fait, tout ça, bah, c'était un environnement très compétitif, très, on montre pas ses failles, on montre pas ses faiblesses. Et évidemment, l'hypersensibilité ne sont ni des failles ni des faiblesses, mais dans ce monde-là, les émotions de l'ordre de la douleur, la tristesse, la colère, tout ça était une faiblesse de montrer ses émotions. Donc, à partir de là, je me suis un peu camouflée et j'ai pas montré ces parts-là de moi, même si je les accueillais en moi. Donc, pendant longtemps, même quand j'ai lancé mon cabinet de coaching, à la suite du moment où j'ai découvert que j'étais hypersensible, parce que pour moi, ça a fait sens d'être dans une vocation qui prenait en compte cette sensibilité, eh bien, je ne l'annonçais pas, je ne l'affichais pas. En revanche, c'était assez drôle de voir que l'univers m'envoyait 80% de personnes qui l'étaient. Donc, dans les conversations privées que nous avions, on l'abordait, mais ce n'était pas quelque chose que j'affichais. Donc, je ne n'adressais pas que des hypersensibles, j'adressais vraiment des cadres dirigeants qui étaient en souffrance dans l'entreprise, qui étaient en reconversion professionnelle ou qui souhaitaient vraiment passer des caps dans le management, le leadership, s'épanouir et s'accomplir. Et un jour, l'hypersensibilité est venue à moi, on va dire professionnellement. C'était au tout début du Covid. J'avais prévu de lancer une formation pour les coachs en ligne. Donc, j'avais prévu toute l'artillerie lourde pour créer une formation en ligne pour les coachs, pour les aider à trouver des clients et pour leur transmettre ma méthode. Et au moment du Covid, le monde s'arrête. On était vraiment dans une paralysie totale. Tous mes clients présentiels s'arrêtent, enfin quand j'allais en entreprise, etc. Donc, j'ai du temps. Et ce jour-là, je sens une peur monter. Au tout début, tout le monde a peur. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Et on est dans la peur. Et moi, je ressens la peur des gens. Donc, je ressens la peur de mon entourage, de mes amis, de ma famille. Et je suis assez submergée. Et je me dis, bah, ça, c'est l'hypersensibilité. Et tant que je suis submergée, je suis utile à rien ni personne. Donc là, je voulais lancer un projet. Ça tombe à l'eau. Je suis utile à rien ni personne. Comment je peux devenir utile? Et je fais une méditation ce jour-là. Et dans ma méditation, vraiment, je sens la guidance de tu ne pourras pas être utile si toi-même, tu ne sais pas te poser dans ce chaos. Donc déjà, pose-toi dans ce chaos. Donc je fais plusieurs méditations, plusieurs jours, je me pose, je prends du recul, je prends de la distance, je fais ce que je sais faire dans ma présence, dans mon retour à moi. C'est facile parce que j'ai plus de clients, j'ai plus de travail, les enfants sont à la maison, donc tout se calme, tout se ralentit. Je suis dehors, en plus il fait beau, je suis dans mon jardin. Donc, et vraiment l'espace des trucs où je me recentre, je me recentre, je me recentre. Et je refais une dernière méditation où je me dis, ben, comment je peux contribuer au mieux une fois que j'étais posée? Et vraiment, ce qui m'est venu, c'est utilise ton artillerie digitale pour ta formation en ligne pour les coachs, pour faire des conférences pour les hypersensibles. Et au début, j'ai fait des conférences comme ça, gratuites, juste pour qu'on se fédère, juste pour leur dire, voilà, j'ai fait ces méditations, maintenant je me sens capable d'aider les autres. Vous, vous devez être dans le chaos, je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, vous pourrez vous aussi aider les autres. C'était vraiment une idée de bah, si tout le monde aide tout le monde, ça va bien se passer, quoi. Et puis à ce moment-là, je fais aussi du coaching gratuit. On crée un collectif avec mes camarades de coaching intégral de San Francisco et on propose du coaching gratuit pour tous les gens en détresse. Donc à ce moment-là, je suis vraiment dans une optique, j'aide les gens que j'ai envie d'aider. Et comme je fais du gratuit, je fais vraiment que ce que j'adore. Et en fait, en faisant ce qu'on adore, et c'est vraiment maintenant le message que je délivre le plus souvent, et notamment dans Vocation, c'est. Bah, quand on fait ce qu'on adore, bah, ça fonctionne. En tout cas, quand on fait ce qu'on adore et qu'on travaille beaucoup, 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 c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, je fais ce que j'adore, je n'ai pas besoin d'argent, je le fais, et des hypersensibles finissent par me dire, mais tu veux pas nous accompagner vraiment dans quelque chose qui soit adapté aux hypersensibles pour les hypersensibles. Et ça, j'ai pas à ce moment-là. J'ai pas de formation qui existe là-dessus. Et c'est eux, en fait, qui m'incitent à le faire. Je commence à le créer, je commence à le faire. Et ça a commencé là, voilà. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Il y a eu un tel engouement. Il y a eu Clubhouse, que tu connais, qui a permis aussi d'affiner tout ça, parce que ça m'a permis d'être en contact de milliers d'hypersensibles. Donc, de me rendre compte quelles étaient leurs souffrances, les plus grandes, même si j'en avais déjà une bonne idée. Et du coup, cette formation, elle s'affine au fur et à mesure du temps. Et puis maintenant, je fais plus que ça et j'ai même une équipe de 8 personnes pour faire ça.
Donc toi, tu en as fait une force pour toi-même. Tu nous as raconté déjà un petit peu comment tu as découvert ton hypersensibilité. Est-ce que tu veux bien le partager à ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui?
Comme je vous ai dit, j'étais plutôt dans un monde de performance, de compétition, et je le vivais pas trop mal parce que je pense que comme j'ai beaucoup vécu dans différents pays, j'ai pris des cours par correspondance pendant des années. Je vivais à la campagne, je vous ai dit, dans la montagne, etc. Finalement, ça s'équilibrait, ce côté performance, surperformance et ce côté nature, je fais ce que je veux, Je suis pas trop contrainte, en fait, je suis pas trop sous pression, ça s'équilibrait bien. Et puis, je rentre en France, je fais une école d'ingénieur. Bon, maths spé, déjà, ça commence à grincer sérieusement des dents. Pas d'équilibre, plus de sport, plus de nature, que l'intellect, investissement de l'intellect, l'intellect, l'intellect. Donc, je me déséquilibrais complètement sur l'intellect. École d'ingénieur, je me déséquilibre complètement sur l'intellect. Du coup, je fais la fête pour compenser, mais je fatigue mon corps. Et puis, je vais commencer mon travail d'ingénieur chez Total. Et au bout de quelques années, je sens que j'ai des somatisations, des douleurs physiques, des migraines, le cou qui est bloqué, des tétanies musculaires, un peu des crises d'angoisse aussi, des oppressions thoraciques. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais moi, à l'intérieur de moi, ça commence à plus du tout être confortable. Et pourtant, j'ai la vie idéale. De l'extérieur, j'ai vraiment la vie idéale. Et je vais de médecin en médecin à ce moment-là. Je fais un parcours un peu d'errance médicale où on me dit, mais non, vous avez rien. En plus, mes analyses étaient toujours parfaites, nickel, tout est parfait, tout va bien. Et c'est un médecin généraliste qui me dit, il y a quand même quelque chose. Il me fait des analyses plus poussées. Il se rend compte que j'ai certaines carences en magnésium, en calcium. Mais il me dit, c'est pas vos carences qui créent ça. C'est parce que vous avez une problématique plus de développement personnel que vous ne stockez plus parce que vous êtes en stress chronique. Parce que comme vous ne savez pas ce que vous avez, vous êtes en lutte, en fait. Il y a une espèce de lutte qui s'est créée à l'intérieur de vous. Et ça m'a parlé à 100%. Et il me dit, il y a un vieux monsieur qui gère très, très bien ça. Et en quelques séances, j'ai vu des miracles pour exactement les mêmes symptômes que vous. Il n'est ni psy, ni thérapeute. On ne sait pas trop ce qu'il est, mais par contre, vraiment, il fait des miracles. Donc, vous pouvez y aller. Et il habitait en plus à quelques mètres de chez moi. Et donc, j'ai fait 4-5 séances avec ce vieux sage. Et c'est lui qui a mis vraiment le mot sur mon hypersensibilité. Il travaillait avec les fonctions de Jung, donc il m'a vraiment montré que j'avais une hypersensibilité intellectuelle avec ce cerveau en arborescence, cette pensée en arborescence, qui s'était complètement surinvestie parce que j'avais désinvesti le corps. Il m'a montré ma sensibilité sensorielle, corporelle, que j'avais complètement désinvestie depuis l'arrêt de la gymnastique et l'intégration au MathSup/MathSp. Il m'a montré mon hypersensibilité émotionnelle avec ma difficulté à gérer ma colère, à gérer ma frustration de ce monde dont je venais, dans lequel je me sentais pas vraiment à l'aise et dans lequel, du coup, j'avais appris à mettre des masques, à me montrer surperformante, à être tout le temps dans montrer mes capacités. En plus, en étant une femme, j'étais toujours en train d'essayer de prouver quelque chose aux autres. Et que ça m'avait épuisée au lieu d'être simplement moi-même. Et voilà, à ce moment-là, je comprends tout ça. Et en 3-4 séances, tous mes symptômes s'en vont et je change de vie complètement. Je quitte mon mec de l'époque, je quitte Paris, je quitte mon boulot et je change tout.
Tu as une sorte de mode d'emploi à travers ces séances-là sur ton fonctionnement intérieur. Quelles sont les petites
Exactement.
choses que tu as mises en place déjà à la connaissance, à la prise de conscience de cette hypersensibilité?
Écoute, je dirais qu'une des choses les plus fondamentales, c'est cette histoire du corps. À un moment donné, je me rappelle que quand j'investissais mon corps, ça paraît fou, hein, mais quand j'investissais mon corps, quand j'étais gymnaste, tout allait bien. L'équilibre était là. J'avais rien à faire, j'avais rien à penser, j'avais pas des exercices à faire. Aujourd'hui, on donne des exercices de yoga, on donne des exercices de sport, etc. Mais moi, tout ça était intégré dans la pratique de la gymnastique. La gymnastique, c'est quand même à la fois quelque chose de très sportif et de très cardio, et quelque chose qui demande une grande agilité et une grande sérénité. Parce que quand tu dois tenir un équilibre, quand tu dois faire un double saut périlleux arrière, il y a une forme de sagesse du corps là-dedans. Et donc, je me reconnecte au corps, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment la première chose que je fais. Je re-respire, en fait. Je re-respire en conscience. Je reprends des activités sportives. Je refais attention au toucher. Je refais attention à mes cinq sens. Et c'est juste l'intention de mettre le focus dessus. Je veux dire, je ne fais pas des grandes, grandes choses. Donc ça a été une des premières choses. Ensuite, il y a eu vraiment tout l'aspect émotionnel. De me rendre compte que je nourrissais une colère depuis de nombreuses années parce que j'estimais qu'on ne m'aimait pas pour ce que j'étais, en fait. On ne m'aimait pas pour ce que j'étais, a fortiori parce que je ne le montrais pas. Donc est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était l'histoire que je me racontais? Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être moi-même, parce que si je montrais mes sensibilités, on me disait toujours, ah non, hein. Et puis quand j'étais petite, c'était, non, on pleure pas. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. J'avais le sentiment que je devais faire pour être. Et ça a été une deuxième prise de conscience un peu énorme. À ce moment-là, je me dis, bon, quitte à décevoir des gens, je vais essayer d'être moi-même et voir. Peut-être on m'aimera pas. Bah, tant pis. En tout cas, je serai pas malade. Un jour, j'avais dit ça à une cliente. Elle m'avait dit, mais j'arrive pas à changer, j'arrive pas à mettre en place les changements. Et je lui avais dit, bah, peut-être que t'as pas encore touché le fond. Et c'est un peu dur, parfois tu le sais que je suis un peu provocatrice, mais c'est pas faux. Il faut vraiment avoir mal pour se dire, bon, je vais peut-être essayer une autre manière que la manière qui m'a permis d'être en tout cas, si ce n'est aimé, accepté dans un milieu. Donc ça a été un gros, gros, gros morceau de déconstruire tous les masques qui m'avaient permis d'avoir une situation très confortable vis-à-vis de l'extérieur.
Ouais, j'entends qu'il y a eu des mises au point, des ajustements sur plusieurs domaines, le domaine perso, intérieur, émotionnel, professionnel, relationnel aussi. Qu'est-ce qui a été aussi difficile par rapport à ce que les autres pensaient de ton hypersensibilité? Au début, tu en parlais ou pas plus que ça?
Alors, pas du tout. Tu vois, je m'en suis rendu compte il y a plus de 20 ans et j'en ai parlé que au moment du Covid. J'en parlais encore une fois dans les consultations privées pour les clients, mais moi, je n'ai jamais affiché mon hypersensibilité avant tout ça. Donc, je n'en parlais pas. Relationnellement, j'ai juste appris à faire avec qui j'étais et arrêter de faire avec ce que je n'étais pas. Et ça aussi, ce vieux monsieur était un peu provocateur. Il m'avait dit, vois-tu comme tu es vaniteuse à vouloir faire avec ce que tu n'es pas et à ne pas vouloir faire avec ce que tu es. Et c'est une phrase qui a vraiment transformé ma vie. Et relationnellement, bah, j'ai commencé petit à petit, mais ça m'a pris du temps. Déjà, je ne sais pas si on peut être totalement soi-même et qui est soi-même, tout ça est philosophique. Mais en tout cas, ça a été un infléchissement de ma trajectoire de vie et de ma trajectoire relationnelle de je vais montrer plus exactement comment je suis et on verra bien. Et je me rappelle quand je suis partie après à San Francisco, 7 ans après avoir découvert mon hypersensibilité, mon programme de coaching individuel que m'avait donné mon coach, c'était de devenir audacieusement moi-même. Et c'est vraiment ce que j'invite tous les hypersensibles à être. Alors, être soi-même, c'est très philosophique parce que ça ne veut pas dire déborder n'importe comment sur n'importe qui et considérer que l'autre n'existe pas. Non. Mais c'est déjà être au clair avec soi et être honnête avec soi et regarder les choses en face. Ça commence par là.
Tu as donné quelques signes, quelques indices sur l'hypersensibilité. Comment est-ce qu'une maman qui nous écouterait là aujourd'hui pourrait savoir si elle est concernée par l'hypersensibilité? Et tu rappelles souvent que c'est pas un diagnostic officiel, hein.
Non. Donc déjà, il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Il y a pas mal d'amalgames qui sont faits aujourd'hui, notamment entre le HPI, l'hypersensibilité, le TDAH parfois qui est amalgamé. Il faut se rendre compte qu'il y a des troubles de la personnalité ou des troubles mentaux qui peuvent donner des choses qui ressemblent à l'hypersensibilité, mais ça n'en est pas nécessairement. Certains HPI sont hypersensibles, mais tous les HPI ne sont pas hypersensibles. Ça, c'est important de le dire. Et moi, je m'occupe pas du HPI d'ailleurs. C'est pas un sujet que j'adresse. Et même au sein des hypersensibles, il y a les quatre sphères dont je viens de parler, c'est-à-dire la sphère intellectuelle, la sphère émotionnelle, la sphère corporelle et même la sphère intuitive. Et donc, pour moi, le plus simple, enfin pour vous, le plus simple pour savoir si vous êtes hypersensible, c'est de faire un test qu'on a créé, qui a 75 questions et qui va vraiment vous montrer si vous avez la forme sensorielle et émotionnelle de l'hypersensibilité. Voilà, c'est 75 questions.
Oui, je mettrai le lien, bien sûr, si vous avez envie de faire le test. Il est assez surprenant parce qu'on a cette impression de, mais comment elle sait? Mais comment elle fait pour savoir que, mais elle habite avec moi ou quoi?
J'ai souvent ce feedback et c'est marrant, je l'ai eu cette semaine. Il y a une personne qui m'a écrit qui m'a dit, mais vous étiez avec moi ou? C'est pour ça que je pense, hein, et Séverine, toi qui es plus de l'autre côté, tu le dirais mieux que moi, mais je crois que quand on a fait le test, à la fin, on n'a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait qu'on l'est ou pas.
Mais
Et
ça
c'est un
valide pas tout.
autodiagnostic. Hein.
Le fait de le savoir n'est que le début du chemin, puisque
Ah
au
oui.
moment où on le sent, on se dit, bon, bah maintenant je fais quoi de cette idée que je suis hypersensible? Qu'est-ce que je vais faire avec cette étiquette supplémentaire que je risquerais de me rajouter?
Oui, et c'est important de dire que c'est pas vraiment une étiquette, hein, c'est un ensemble de caractéristiques. Ça permet vraiment de vérifier comment on fonctionne. Pour moi, c'est le point de départ, tu as tout à fait raison de le dire. Et ça va nous permettre d'aller commencer une exploration. Et tu vois, quand tu m'as demandé de me présenter, j'aurais pu me définir comme ça, comme une exploratrice de l'être humain. Par certains journalistes d'ailleurs m'ont appelée anthropologue dans l'âme, parce que je ne suis pas du tout anthropologue. Mais j'aime, voilà, cette exploration. Et je crois que l'hypersensible, une fois qu'il découvre qu'il l'est, soit il peut ne rien faire, parce que s'il vit très bien avec, bah c'est merveilleux. On peut vraiment vivre merveilleusement bien avec l'hypersensibilité. Il y en a plein qui le vivent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aurait 25% de la population qui l'est. Et pour autant, ce n'est pas 25% de la population qui en souffre. Donc ça, déjà, c'est bien de le dire. On peut ne rien en faire, juste par curiosité, savoir qu'on l'est et savoir qu'on le vit bien. Là où l'exploration vraiment commence, c'est si on le vit pas très bien. C'est s'il y a des problématiques sous-jacentes, s'il y a des souffrances inhérentes à cette hypersensibilité. Et là, bah, il s'agit d'aller vraiment regarder comment je fonctionne moi dans mon hypersensibilité. Et c'est pour ça que le test n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller consulter, se faire aider pour savoir comment moi je fonctionne. Alors après, on peut bien sûr lire des choses. Les hypersensibles, on est friands d'informations, de conseils, donc on va lire plein, plein, plein de choses, mais à un moment donné, il faut aller regarder en soi, avec l'aide de quelqu'un ou seul, si on est capable de le faire seul, hein, et d'aller voir comment ça se traduit vraiment pour moi et quelles sont les souffrances qui en découlent. Parce que la question de l'exploration, elle est intéressante que dans cette optique-là, selon moi. Sinon, c'est une introspection qui va nous auto-centrer. C'est pas le but. L'idée, c'est vraiment comment j'amenuise ma souffrance, comment je retrouve un équilibre, comment je peux m'épanouir et m'accomplir dans mon hypersensibilité. Et pour ça, la première étape, ça va aller être de creuser sur bah, qu'est-ce qui me fait souffrir là-dedans? Est-ce que émotionnellement, je suis au clair? Est-ce que j'ai de la colère que je n'exprime pas, qui s'imprime en moi, qui crée des douleurs? Hein, souvent, la colère va s'imprimer, créer des douleurs. Est-ce qu'il y a des joies aussi que je camoufle pour ne pas trop déborder, pour ne pas trop briller, pour ne pas trop faire d'ombre, pour ne pas trop éclabousser, pour ne pas être chiante? Vraiment, oser être chiant, pas trop, parce que sinon, bah, on s'isole. Mais si une part de soi, bah, prend de la place, comment je lui laisse cette place? Et regarder où est-ce que j'ai camouflé des bouts de moi, où est-ce que je me suis éteinte, où est-ce que j'ai voulu vraiment éloigner de moi des parts de moi. Et c'est pas pour rien que à San Francisco, je suis partie faire cette formation de coaching intégral qui est l'intégration de toutes nos parts. Parce que l'hypersensible n'est pas obligé de souffrir, il souffre quand il se coupe de parts de lui-même et quand il les rejette. Et donc l'idée, c'est d'aller voir toutes ces parts et de les ramener à soi, d'apprendre à les aimer une à une et de redevenir un, de se recompléter, d'être dans la complétude intérieure.
Si une maman qui nous écoute là aujourd'hui se sent concernée et ça résonne en elle, ce retour au corps, comment elle pourrait l'apprivoiser comme première pratique?
C'est vraiment difficile de donner des pratiques quand on n'a pas une problématique singulière en face de nous, parce qu'il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Et tu vois, je ne donnerais pas le même conseil à deux ou trois personnes du retour au corps suivant leur façon de se déconnecter de leur corps, ou suivant leur façon de gérer leurs émotions, suivant aussi leur histoire, suivant leur traumatisme. Tu vois, quelqu'un qui a été traumatisé, qui a subi des abus sexuels, on va pas l'aider à revenir à son corps de la même manière que quelqu'un qui a vécu de la violence verbale. Et encore, c'est même pas lié à l'événement d'origine, c'est comment ces personnes le gèrent aujourd'hui. Donc je poserai beaucoup de questions et j'inviterai vraiment plus à écrire dans un premier temps comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai envie de revenir à mon corps, est-ce que je suis trop dans ma tête, est-ce que je me sens déconnectée de mon corps, si oui, quand, comment, est-ce que je mange, par exemple, est-ce que je mange mes émotions, est-ce que je ne suis plus en conscience de mon corps et est-ce que je mange pour ne pas ressentir certaines choses? Est-ce que j'étais sportive et j'ai complètement arrêté parce que, bah, en étant maman, je m'autorise plus? Donc tout ça, tu vois, va me permettre de faire un plan de route et de dire, bah, à cette personne, parfois, revenir au corps, c'est simplement aller marcher dans la nature 5 minutes par semaine en observant ce qui se passe autour d'elle, tu vois, parce que la vue, ça fait partie du corps. Et donc, regarder la couleur des arbres, des feuilles, sentir l'odeur du sol, sentir la terre, tout ça, ça peut être une pratique pour revenir au corps. Mais ça peut être également de leur proposer de faire du sport. Ça peut être simplement les inviter à respirer en conscience plusieurs fois par jour. Ça peut être d'aller jusqu'à faire de la méditation. Ça peut être faire du yoga. Ça peut être parfois se pincer. Ça peut être acheter une brosse et se brosser. Pour tous ceux qui ont des douleurs, des inflammations, en fait, la peau est un des éléments qui permet d'évacuer les toxines du corps. Et quand elle est encrassée, eh bien en fait, elle permet moins ce nettoyage. On transpire moins bien, etc. Donc rien que se brosser avec une brosse, c'est prendre conscience de soi, prendre conscience de sa peau, qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle vit. Voilà, ça peut être ça. Mais il y a à peu près 200 000 pratiques possibles pour revenir au corps et en fonction du quotidien aussi de chaque maman. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle travaille pas? Qu'est-ce qui est possible? On va pouvoir proposer des pratiques qui sont adaptées.
Ça rend curieux de savoir quelle est notre recette à nous sur mesure pour créer cet apaisement par rapport à notre hypersensibilité. Tu nous en as parlé pour ton travail. Est-ce qu'en tant que maman, tu as vu des effets de l'hypersensibilité sur ton quotidien de maman?
Déjà, quand on est hypersensible, il y a quand même une probabilité très très grande que un ou tous vos enfants le soient. Donc effectivement, il y a une double complexité, on va dire, à gérer à la fois notre hypersensibilité et celle de nos enfants. Et la complexité, quand on est parent de notre génération ou de la génération un peu après, c'est comment j'apprends à faire différemment de mes propres parents, sachant que à partir du moment où je me construis en mimétisme de mes parents, ça va pas bien se passer. Et à partir du moment où je me construis en rébellion de mes parents, ça va pas bien se passer. Il n'y a aucun moment où je vais prendre mon pouvoir. Il n'y a aucun moment où je vais incarner la mère que je suis censée être, qui n'est pas parfaite, bien évidemment, mais je vais osciller entre compulsivité et culpabilité. Et ça, c'est des nourritures terribles pour la maman hypersensible. Basculer de compulsivité à culpabilité, c'est ce qui va nous épuiser, épuiser notre système nerveux. L'hypersensibilité, elle va être complètement dans le rouge, à feu et à sang. Donc, l'idée, c'est là aussi d'aller, encore une fois, regarder à l'intérieur qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je dis souvent choisir ses batailles, c'est hyper important et quand on est maman, c'est indispensable. On ne va pas pouvoir tout bien faire, même si théoriquement, on a en tête, parce que souvent les hypersensibles ont ça, on a en tête exactement ce que notre mère aurait dû faire avec nous et donc on va faire ça. Et surtout ce qu'elle n'aurait pas dû faire et donc je ne vais surtout pas le faire. Et puis le jour où on le fait, c'est l'enfer pour nous. Donc déjà sortir de tout ça, c'est vachement important. Ensuite, quand on a des enfants hypersensibles, c'est vraiment de se dire, on va pas les empêcher de souffrir. Il faut déjà faire le deuil de ça. On va pas les empêcher de souffrir. Ils vont souffrir et c'est OK. Maintenant, pour moi, c'est petit à petit de leur construire la boîte à outils. Donc, pour leur construire la boîte à outils, il faut qu'on la soit construite pour nous-mêmes. Et après, ne pas calquer la nôtre sur l'autre. Donc, c'est encore une fois un travail sur mesure de regarder comment mon enfant fonctionne. Donc là, j'invite vraiment toutes les mamans à écrire. Voilà, il a réagi comme ça dans telle situation et d'essayer de voir des schémas qui se dessinent. Et quand le schéma se dessine, on peut, par la réflexivité, on peut par le questionnement puissant, proposer à l'enfant de voir ce qui se passe en lui, sans vouloir le modifier. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est l'apaiser. Or, il va avoir l'impression, bah, comme nous, hein, quand on est mal et qu'on nous dit calme-toi, ça marche pas. Donc, l'intention trop grande de vouloir apaiser l'enfant, elle va être contre-productive. Donc, l'idée, c'est surtout de lui montrer comment il fonctionne dans un premier temps, comme avec nous. Nous, on doit comprendre comment on fonctionne dans un premier temps. Bah, lui, on doit l'aider à comprendre comment lui, il fonctionne. Et on se rend compte que parfois, 80% des problèmes sont résolus quand juste on met des mots sur son fonctionnement, que lui-même est capable de mettre des mots sur son fonctionnement et que c'est normal, c'est comme ça. Il n'y a pas de c'est pas comme ça, il faut pas, t'es pas dans la norme, t'es pas dans le moule, etc. Donc voilà une des choses à faire. Enfin, il y en aurait un million, mais comment on peut être le plus confortable possible avec l'hypersensibilité, à la fois pour soi et pour ses enfants. En tout cas, c'est les premières choses qu'il y a à faire.
Et plus on va loin sur notre hypersensibilité de maman, plus on sera au calme et capable de réguler ensuite les émotions et les débordements de nos enfants et décoder leur comportement. Si on n'a pas fait ce travail pour nous-mêmes d'abord, il va être difficile de le modéliser et de l'incarner pour eux ensuite, quel que soit leur âge, que ce soit un tout petit ou un adolescent.
Je dirais que s'il y avait une seule chose à faire pour une maman qui a des enfants hypersensibles, c'est de faire ce travail sur elle. C'est-à-dire bien avant même d'essayer de faire quoi que ce soit sur son enfant. Elle peut même ne rien faire sur son enfant, juste faire ce travail pour elle. Pour le coup, en mimétisme, l'enfant verra déjà des clés sur comment apprivoiser tout ça et comment accueillir tout ça.
Je dirais que l'accompagnement des enfants hypersensibles est différent de l'accompagnement des adultes hypersensibles.
Ça, c'est une excellente question. Je dirais qu'il est différent, oui. À partir du moment où le cerveau n'est pas encore capable d'autocorrection, d'autoréflexion, d'auto-observation et d'autodiscipline, parce que c'est ça qu'on donne comme pratique aux adultes, finalement, c'est de mettre en place des rituels, de mettre en place des disciplines nouvelles, des savoir-être nouveaux. On sait très bien que pour qu'un enfant arrive à se laver les dents, il faut à peu près 15 ans de répétition quotidienne. Je sais pas combien ça fait de jours et je sais pas combien ça fait de répétition, mais donc tant qu'il n'y a pas cette capacité d'autodiscipline, on pourra pas gérer de la même manière en lui donnant des pratiques, des exercices. Donc il va falloir plus être dans l'instantané, être dans la présence et lui apprendre à être avec son corps, à être avec ses émotions et à observer ses pensées en étant avec lui et en le faisant avec lui. Et moi, par exemple, le soir, on fait des exercices avec mes enfants dans le lit, où on va faire vraiment des scans corporels et où je vais leur demander quelles sont leurs sensations corporelles. Et je vais leur demander quelle a été l'émotion agréable de la journée et quelle a été l'émotion la plus désagréable de la journée. Et comme ça leur permet de développer du vocabulaire, de développer du focus, de développer de la compétence en fait sur l'intelligence émotionnelle, sur l'intelligence corporelle, au-delà de l'intelligence cognitive.
Et quand on le découvre, nous, assez tard, quand nos enfants sont déjà un peu plus grands, est-ce qu'on se rajoute, parce que moi, je me remets dans cette émotion d'il y a 2 ans de découvrir tout ce monde-là de l'hypersensibilité et de me dire, si j'avais su tout ça avant, j'aurais pu mieux aider ma première fille. Donc, est-ce qu'on se rajoute encore une flamme de culpabilité de ne pas avoir su ça avant pour nous-mêmes, pour l'avoir modélisé plus tôt pour nos enfants? Que tu vois ce que je veux dire? Quand on
Oui.
découvre tout ça, c'est déjà submergent pour nous et on se rajoute en plus une injonction de faire tout ça pour aider nos enfants à leur tour. Comme si on menait 2 combats en parallèle.
Oui, j'entends et je connais, enfin, je sais ton parcours et je sais à quel point quand on découvre ça, moi, c'est vrai que c'est la chance que j'ai eue, c'est de l'avoir découvert il y a 20 ans. Donc, c'est différent. Mais quand on découvre ça, il y a malheureusement une phase très difficile et c'est pour ça que dans nos parcours, on travaille énormément là-dessus. C'est ce que j'appelle et que tu connais très bien le juge intérieur. Et cette part de nous qui va venir comparer la théorie de ce qu'il faudrait bien faire avec ce que je fais, ce que j'ai fait. Or, on se rend compte aujourd'hui, et plusieurs études le montrent, c'est pas scientifique, mais quand même, il y a des études qui tendent à le montrer, c'est que l'enfant va trouver ses propres ressources, que tu aies bien fait ou que tu aies mal fait. Et même, il va parfois trouver mieux ses propres ressources quand tu fais mal que quand tu fais bien. Il n'y a pas forcément d'études là-dessus, mais moi, j'ai fait mes propres analyses sur les différents cas qu'on a eus, que si tu fais tout bien, l'enfant n'est pas très bien adapté à la société. Donc, en fait, il y a vraiment un truc à calmer en parallèle du travail sur soi, qui est ce juge intérieur. Et retrouver par le corps la guidance intérieure et le flot de la vie et pas rester dans le mental. Parce qu'à partir du moment où on culpabilise, ça veut dire qu'on est dans le mental. On est en train de comparer ce qu'on est en train de faire à une réalité totalement théorique de ce qu'il faudrait faire. Et c'est ça qui crée cette culpabilité. Moi, je sais que mes enfants sont hypersensibles. Je sais que c'est mieux d'accueillir les émotions, mais parfois je les accueille pas, leurs émotions. Et c'est OK, et c'est pas grave. Et par contre, je vais leur dire, je vais essayer de conscientiser, voilà. J'essaye de garder qu'un seul truc en tête, c'est de conscientiser ce qui se passe. Donc je vais m'excuser, je vais leur dire, écoute, là, maman, elle a son réservoir qui est plein, donc je n'ai pas de capacité à accueillir tes émotions. Va voir papa ou va trouver une solution parce que là, je n'ai juste pas les ressources. Et c'est OK. Et à partir du moment où on fait ça, bah, on arrête aussi d'en faire des contenteurs parce que tu le sais très bien, une des plus grandes souffrances des hypersensibles hyperempathiques, c'est de devenir des contenteurs, d'avoir ce syndrome du contenteur et de vouloir faire plaisir à tout le monde et de contenter tout le monde. Et là, dans ta question, j'entends que je veux aussi contenter mes enfants quelque part, faire en sorte qu'ils soient vraiment bien. Mais non, la vie, c'est des hauts et des bas, et j'apprends à mes enfants, la vie, c'est 50% de trucs sympas et 50% de trucs vraiment merdiques. Mais vraiment, hein, on souffre tous. Je veux dire, il y a une souffrance inhérente à l'être humain qui est de fait. Donc, vouloir qu'ils ne souffrent pas, déjà, c'est un leurre. Et ensuite, pour moi, leur mettre de la conscience sur tout ce qui se passe, y compris sur mes failles, y compris sur mes lacunes, y compris sur mon manque de ressources, y compris sur les fois où je fais mal, y compris les fois où je gueule, y compris les fois où je les ai laissés manger n'importe quoi pendant 3 jours et ils ont un pic de sucre et puis ils ont fait des écrans, ben voilà, je leur dis, bah, écoutez, là, je suis fatiguée, j'ai des douleurs, je suis allongée, je vous laisse regarder des écrans. C'est pas terrible. Maintenant, j'essaie de limiter la casse et je leur dis, bah, dans quelques jours, on fera mieux ou bah, je leur interdis de regarder des trucs violents. Voilà, c'est trouver des compromis, en fait. C'est toujours trouver des compromis et se lâcher la grappe. En fait, ce que je remarque, c'est que plus on est stressé sur ça, moins on arrive à être dans la présence. Parce que ce qui compte, c'est pas la théorie de l'éducation, c'est d'être dans la présence, d'être avec eux. Comment leur apprendre à être dans leur corps si nous, on n'y est pas? Comment leur apprendre à être dans leurs émotions si nous, on n'y est pas? Et y être, ça ne veut pas dire feindre l'émotion de sérénité. Ça veut dire, bah, si je suis en colère, je suis en colère. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, déborder sur eux. Mais on peut ressentir de la colère et l'exprimer en disant, écoute, là, je suis hyper en colère. Il vaut mieux que tu viennes pas me voir maintenant. Et ça, c'est pour moi, c'est ça le plus important en réalité.
Oui, ça boucle avec l'accord Toltec de on fait de notre mieux en temps réel, sans projeter tout ce qu'on pourrait faire mieux ou ce qu'on aurait pu faire mieux en se baladant entre le passé et le futur, qui est très compliqué à faire avec les mamans, que je vois à chaque séance comme difficulté de se dire j'aurais pu faire mieux, je pourrais faire mieux, j'aurais dû faire mieux, tout ce juge intérieur dont tu nous parles très souvent. Comment faire pour désactiver cette culpabilité au quotidien?
Oui, alors pour moi, ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne avec les gens qu'on accompagne quand on parle de ce sujet, c'est de passer de je me juge à je suis inspirée à faire mieux. C'est-à-dire que tu peux bien sûr faire un constat que tu aurais pu mieux faire. T'as merdé. Voilà. Je le dis parfois à mes enfants. Voilà, j'ai mal fait. J'aurais pas dû. Mais c'est le jugement qu'il y a derrière qui est contre-productif. Et donc quand on a travaillé, mais c'est un long travail, c'est pas une clé comme ça. Quand on a travaillé sur son juge intérieur maintes et maintes fois, notamment en écrivant tout ce qu'il nous raconte, en prenant de la distance par rapport à lui, il y a des bouquins aussi à lire qui permettent de prendre cette distance, en faisant des exercices pratiques où on se met à distance de lui et où on s'en désengage. Je me désengage de ces messages. C'est quoi le juge intérieur? C'est l'introjection de tous les messages éducationnels qu'on a reçus qui étaient de l'ordre de la critique, du jugement, de tu devrais pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc évidemment qu'on l'a dans notre tête, mais c'est un petit disque rayé. C'est un truc qui vient nous culpabiliser, qui vient nous faire honte, mais qui n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Donc c'est tout un travail pour s'en détacher, pour le tenir à distance. Et une fois qu'on le tient à distance, on est tout à fait encore capable de se dire j'ai merdé, mais sans avoir le harakiri derrière. J'ai merdé, j'ai mal fait, je ferai mieux la prochaine fois, et la prochaine fois, je fais mieux. Et c'est ça le chemin de développement personnel pour moi, qui est au service du développement relationnel. Parce que c'est pas du développement personnel pour être mieux pour soi-même, c'est pour être mieux en relation avec les autres et pour vivre l'amour plus pleinement. Donc, passer du jugement à l'inspiration, c'est vraiment faire ce travail pour se désengager de son juge, se désengager de ses messages critiques, inefficaces, inutiles, chronophages, énergivores, et passer de oui, je constate, et je m'améliore. Et en fait, moi, à chaque fois que je fais une connerie ou à chaque fois qu'on me critique, c'est jamais agréable, mais je me dis, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que je peux en faire? Et comment la prochaine fois, je peux m'en servir pour plus de bonheur? Et maintenant, du coup, j'ai beaucoup moins d'appréhension de faire une connerie ou de me faire critiquer, parce que je me dis, bah, ça va être une clé de plus pour le bonheur d'après.
Toutes les pierres qu'on nous balance, on peut les poser et monter dessus pour avancer et en construire un chemin et un pont qu'on
C'est
n'empêchera
exactement
pas
ça.
les critiques, on n'empêchera pas les jugements et on n'empêchera pas les, quoi qu'il y ait les difficultés, que ce soit dans la maternité ou dans la vie pro.
Mais heureusement, la vie serait triste sinon. Si on était tous tout parfaits. Et je sais que les hypersensibles, ils ont envie de se perfectionner. Mais ce perfectionnisme, c'est ce qui nous tue, en fait. C'est ce qui nous rend inhumains. C'est ce qui nous fait sortir de notre humanité. C'est ce qui nous fait sortir de notre corps et le perfectionnisme n'existe que dans le mental. Donc vous pouvez être sûr que quand vous êtes dans votre perfectionnisme, c'est parce que vous avez peur de ne pas être aimé et que votre mental invente des stratégies pour se faire accepter qui sont absolument contre-productives parce que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est d'être et d'être qui on est. Donc dès qu'on se met des pressions mentales pour être dans la perfection, on sort de cette présence, on sort du flot de la vie tout simplement. Et on sort de son corps en plus.
Donc, à t'entendre, il y a toute cette pleine conscience de soi, de son fonctionnement intérieur, de nos pensées, de nos émotions, de notre passé, de nos rêves, de nos envies. Et ensuite, comment on interagit avec nos enfants, notre conjoint, notre patron? Est-ce qu'il y a des liens aussi qui se tissent sur l'hypersensibilité à l'extérieur de nous? Est-ce qu'il y a des manières de mieux apprivoiser notre hypersensibilité dans le lien aux autres?
Oui, ça c'est un énorme morceau. Je pense qu'une fois qu'on a vraiment compris comment on fonctionnait, il y a vraiment ce deuxième morceau de qui sont les personnes déjà qui viennent appuyer sur mes boutons rouges. Parce qu'on va garder des sensibilités fortes, même en ayant fait un gros travail sur soi, et tant mieux, c'est la beauté de qui on est aussi. L'idée, c'est de ne pas se mettre dans des environnements hostiles à notre personnalité. Donc il y a quand même des personnalités, peut-être qu'on va appeler hyposensibles, hein, comparaison à nous, qui peuvent être vraiment source de souffrance pour nous. Donc pour moi, il y a un vrai tri à faire à ce moment-là et tous nos clients le font. Tous nos clients nous le disent. Ah, mais il y a un tri qui s'opère, même si on ne le veut pas. Une fois qu'on a décidé qu'on se protégeait, qu'on se préservait, qu'on s'aimait, bah, il y a des interactions qu'on n'accepte plus. Donc il y a déjà ça. Il y a des interactions qui ne sont plus OK ou alors on va assainir certaines relations qui nous faisait souffrir ou qui venait toucher des cordes sensibles chez nous, où on se sentait pas complètement respecté. Donc tout ça, il y a un travail à faire de rééquilibrage, réassainissement des relations aux autres. Et puis ensuite, il y a comment j'en parle, comment je parle de qui je suis en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle la communication puissante, c'est un autre gros morceau. Moi, je dis souvent aux hypersensibles, ne dites pas que vous êtes hypersensible, ça veut rien dire. Dites, j'ai besoin de ça, j'aimerais ça. Oser, en fait, c'est vraiment oser être assertif, c'est-à-dire prendre en compte nos besoins en même temps qu'on prend en compte les besoins des autres et pas simplement les besoins des autres comme la plupart des hypersensibles le font. Les hypersensibles hyper empathiques, hein, qui est une version, on va dire c'est 80% des hypersensibles.
Pourtant, on est tellement capable et dans la facilité à voir les besoins et les demandes des autres. On a un détecteur à besoin des autres qui est tellement développé, que j'ai fait comme contresens en découvrant la communication non violente il y a 6 ans, à me dire, ah, mais c'est génial de comprendre tous les besoins de tous les humains autour de soi, sauf qu'il faudrait se l'appliquer à soi d'abord. Ça, c'est compliqué.
Évidemment.
Se faire passer en premier. Comment aider les gens à se faire passer en premier parce qu'ils n'aideront ensuite personne s'ils ne nourrissent pas leurs propres besoins. Est-ce qu'il y a une
Exactement.
petite phrase qui a fait mouche pour toi de te faire passer en premier?
Non, moi, ça a été la violence de la douleur et, et des somatisations tellement puissantes qu'elles m'handicapaient, en fait. C'est pour ça que parfois je dis il faut toucher le fond. C'est que finalement, pourquoi changer si ce que tu fais fonctionne dans ta vie? Moi, ça a fonctionné longtemps. J'étais ingénieure, j'avais un super job, un super salaire, un super appart, un super mec. Je veux dire, tant que j'étais bien, pourquoi changer? Pourquoi me faire passer en premier? Enfin, je donnais à ma boîte, je finissais à 22h le soir, je donnais à mon mec, il était très content, je donnais à mes amis, j'ai été 7 fois témoin de mariage, donc on voit que j'étais la meilleure amie de plein de gens. Et tant que ça va, on va pas le faire le travail de se mettre en priorité. C'est quand ça va pas. Et je crois que il n'y a pas eu de phrase, il y a eu des douleurs fortes qui m'ont fait me dire, bah, de toute façon, c'est indispensable. Sinon, je vais plus avoir de plaisir dans la vie. Vraiment, c'était ça, les symptômes physiques. Donc maintenant, si je voulais conseiller quelqu'un, tant qu'il en arrive là, pour qu'il ait un déclic, je constate avec beaucoup de tristesse, hein, que même les gens qui viennent nous voir, souvent, ils sont arrivés au bout du rouleau. Hein. Et c'est comme ça, j'ai envie de dire, moi, j'aime bien être fataliste. Je suis de plus en plus fataliste avec l'âge. Est-ce que c'est pas la vie aussi qui nous envoie des épreuves pour nous amener au bout du rouleau, pour qu'on fasse ce shift? Parce que sinon, pourquoi le faire? Pourquoi se mettre en priorité si mettre tout le monde en priorité, ça fonctionne pour nous? Pourquoi pas, hein? Voilà, j'ai pas de remède miracle ni de phrase. Je crois qu'il n'y a pas de phrase. C'est quand tu es en burn-out, quand tu es en surmenage, quand tu es en mal-être, quand tu as de l'anxiété, quand tu as l'impression de plus vraiment vivre et de passer en survie, quand tu as l'impression que tu passes à côté de ta vie, quand tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit au bon moment, que tu vois ta vie défiler par le hublot. Tout ça, c'est des signes. S'il y a eu une phrase, mais c'est moi qui me la suis dite une fois que j'avais déjà vu tout ça, c'est détruire son présent pour un futur hypothétique est complètement absurde. Parce que souvent, quand on fait ça, on est en train d'investir le futur, en fait. On fait pour les autres, pour les autres. On n'est pas en train d'investir ce qui se passe là tout de suite pour nous. Et souvent, on le fait pour se faire aimer, en plus. On le fait pas pour les bonnes raisons. Mère Teresa, je pense pas qu'elle elle pensait aux autres avant elle. Elle faisait les choses pour les bonnes raisons, mais elle pensait à elle aussi. Quand on pense aux autres avant soi, dans l'hypersensibilité, hyper empathie, et qu'on est dans son empathie horizontale, comme je dis, et pas dans son empathie verticale, eh bien, en fait, on n'est pas dans la vraie générosité. On n'est pas dans la vraie aide aux autres. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de je m'oublie, je me sacrifie, et ça n'amène qu'à de la souffrance à long terme.
Ça me rappelle le tenir que j'utilisais pour l'éducation nationale. Je vais tenir comme s'il y avait un après qui serait mieux, comme ceux qui disent à la retraite, je prendrai soin de moi, ou plus tard, je prendrai soin de moi, comme si le futur, tu l'as dit, nous apporterait de l'espoir et des récompenses, alors qu'on n'est en contrôle que du présent, que de maintenant, que de nos actions d'aujourd'hui. On ne peut pas présupposer de tout ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir.
C'est tellement vrai ce que tu dis et c'est exactement ça. Et c'est le drame de la méritocratie de notre société. On nous fait croire que ça marche au mérite, peut-être un tout petit peu à l'école et encore. Mais après, ce n'est pas le cas. Donc si tu penses que tu vas avoir une médaille pour toute la souffrance que tu auras eue, bah tu te mets le doigt dans l'œil profond. Sortir de la méritocratie et commencer à être soi tout de suite. Il y a aussi, tu vois, il y a eu ces douleurs qui m'ont fait ce déclic, mais il y a aussi cette conscience de la mort qui est venue avec ces douleurs. Parce que j'avais des vertiges et j'avais pas des pertes de connaissances, mais presque. Et j'ai eu l'impression de mourir une ou deux fois dans des crises d'anxiété fortes. Et quand tu prends conscience de la mort, je sais qu'on est tous conscients qu'on va mourir, mais on n'en est pas tous conscients au même niveau. Quand tu prends conscience que tu vas mourir, tu prends des décisions différentes dans ta vie. et passer 10 ans dans un truc qui te convient pas, c'est plus possible.
Il y a une urgence de vivre et de faire d'autres choix pour nous. Revenir à un essentiel, revenir à quelque chose qui fait sens, tu dis souvent. Et tu as évolué au début, ton premier parcours, il adressait les hypersensibles dans leur vie plutôt personnelle. Et là, tu as créé un deuxième parcours qui va vers l'hypersensible au travail. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu en quoi on aurait besoin en tant qu'hypersensible de faire attention au travail?
Bah, le travail, c'est un endroit où on passe quand même beaucoup de temps, en général, sauf si on est à mi-temps et encore. Et c'est un endroit où bah, les émotions, il y a vraiment encore du chemin à faire pour que les émotions soient vraiment acceptées dans les entreprises. Donc, c'est un milieu plutôt hyposensible. Évidemment, il ne faut pas généraliser, il y a plein de choses qui s'ouvrent et tout, mais c'est quand même un milieu hyposensible et c'est drôle ce que tu dis parce que... Bon, moi, le travail, ça a toujours été très important pour moi. Je suis entrepreneur, j'ai une équipe, et puis avant, j'étais manager, etc. Mais j'étais pas sur LinkedIn. Enfin, j'étais sur LinkedIn, mais j'investissais pas LinkedIn. Et là, depuis peu, je me fais violence et je les retourne et je poste. Et je me reconfronte à ce monde où le jugement est complètement OK. Les gens, ils balancent des bazookas. Il n'y a aucun accueil émotionnel et il n'y a pas de bienveillance. Et puis, ça parle que de bienveillance, mais ça ne l'incarne pas. Je reviens dans un monde qui, pour moi, a une intelligence émotionnelle très immature, en fait. Évidemment, on ne généralise pas. Je vois aussi plein d'entreprises libérées. Il y a plein de choses belles qui se passent. Et puis, ce sont des êtres humains comme nous. Enfin, je veux dire, tout le monde. Mais il y a des rôles qui sont joués et des masques qui sont portés parce qu'il y a encore des codes liés à l'entreprise et liés au travail qui font qu'on ne peut pas être à l'aise en étant hypersensible. Donc, bah, l'idée, c'est... d'apprendre à se gérer, parce que c'est pas non plus à l'entreprise de s'adapter aux hypersensibles, je pense pas. Je pense que l'entreprise va s'adapter à l'humain de plus en plus, et c'est le cas, on parle d'entreprise humaine, il y a encore du boulot, mais ça va aller vers ça. Maintenant, l'hypersensible, c'est à lui de savoir quels sont ses besoins, et c'est à lui de mettre ses limites, c'est à lui d'accepter des jobs qu'il peut faire dans tout ce que ça représente, dans tout le panel des tâches qui est demandé, au rythme où c'est demandé, s'il en est capable, et si ça ne lui convient pas, de dire non et de pas faire croire à l'entreprise, de pas se faire croire que c'est OK. Moi, je dis souvent, les hypersensibles en entreprise, c'est comme des sprinteurs. Ils font des choses incroyables, énormes, très vite, très bien faites. Mais par contre, ils peuvent pas faire ça tout le temps sans s'arrêter. Et si l'entreprise s'habitue à ce type de performance et lui en demande toujours plus et qu'il n'a pas de moment où il peut être plus faillible, qu'il se repose ou qu'il fasse des breaks, ou qu'on va le lui reprocher parce que c'est la culture de l'entreprise, de dire t'as pas le droit de partir tôt, tu prends pas de vacances, etc. Bah là, il va imploser. Il va imploser en vol. Donc, il y a vraiment apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses rythmes, apprendre à connaître comment marche son cerveau, être capable de canaliser aussi ses projets, son côté multitâche, son côté multipotentiel, vraiment devenir plus monotâche, choisir encore ses batailles, apprendre à se concentrer, apprendre à être dans son corps, être dans ses émotions, mettre des limites. Mettre des limites, ça ne veut pas dire envoyer chez les autres, hein. Ça veut dire anticiper les choses. Ça veut dire savoir que là, ça va être trop. Ça veut dire être capable aussi de montrer ses failles, ses fragilités et dire, bah là, moi, je sens que je suis trop fatiguée. Est-ce que ça peut être reporté à la semaine prochaine? Donc, c'est apprendre pour moi vraiment l'outil qui m'a permis d'être bien dans l'entreprise, c'est la communication. Enfin, c'est de me connaître et de communiquer. On parle souvent de communication non violente avec toi. La communication non violente, c'est un outil ultra puissant pour mettre ses limites, ultra, ultra puissant, qui permet vraiment à chacun de se positionner. Et c'est au-delà d'une méthode de communication, c'est une façon de gérer sa vie et de gérer ses relations. Donc voilà pour
On a
l'entreprise.
cette base en commun là de communication non violente qui a changé carrément notre vision du monde, à ne plus prendre la responsabilité des émotions des autres et des besoins des autres. On en parle quand même toutes les deux dans nos programmes respectifs. Et c'est une clé et un déclic chez toutes les personnes qu'on accompagne, en fait. Du jour où on n'est plus là pour apaiser les émotions des autres et nourrir les besoins des autres, c'est une liberté qu'on retrouve personnellement. On a un détachement et une légèreté qui s'installe à dire ah, mais en fait, c'est pas du tout ma mission sur Terre. Je ne suis pas là pour ça.
Non.
Il faut l'avoir, ce déclic. Et on peut le souhaiter à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'avoir un jour ce déclic du je ne suis pas sur Terre pour ça. Je ne suis pas là pour ça.
Ben non, notre job sur Terre, c'est de s'occuper de ce véhicule-là et puis après de transmettre ce qu'on a envie de transmettre quand on a envie de le transmettre. Je prends souvent cette métaphore de l'arbre. qui est que on n'est pas là pour transmettre notre sève, on est là pour donner nos fruits. Donc pour donner de beaux fruits, on doit cultiver cet arbre. Notre job, c'est vraiment de cultiver cet arbre et un petit peu celui de nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Mais pas celui de nos parents, pas celui des autres adultes. Ça, c'est pas notre job. Après, on peut donner plein de fruits, bien sûr.
Et puis on aurait aimé l'entendre aussi parfois de la génération d'avant, tout ça. On aurait pu aimer avoir ces clés plus tôt, mais nos parents ne sont pas en état ou capables d'avoir toutes ces connaissances qu'on a maintenant en 2023.
Oui, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, aujourd'hui, je suis apaisée par rapport à ça, dans le sens où je crois même que eux ont fait un chemin énorme depuis leurs parents, et nous, on part d'eux et on fait un chemin énorme, et nos enfants, pareil. Et en fait, c'est grâce aussi à eux qu'on a pu avoir cette ouverture d'esprit, parce qu'ils ont été certainement, avec toutes leurs failles, avec toute leur fragilité, avec tout leur bagage, étaient un peu plus ouverts que leurs parents. Et en fait, c'est juste de proche en proche. Chaque génération essaye de s'ouvrir un petit peu plus avec le bagage qu'elle transporte. Moi, vraiment, comme je me suis apaisée sur le juge intérieur, et c'est encore en ce moment, hein, enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui date d'il y a longtemps que je suis apaisée sur le juge intérieur. Je travaille encore sur la relation avec mes parents, hein, tu le sais. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis apaisée dans le fait de, je ne me dis plus jamais, j'aurais aimé, il aurait fallu, ça aurait dû. Je vois les bénéfices, en fait, de ça. Je suis aussi triste du type de relation que j'ai et de voir que j'aimerais que ça soit plus, j'aimerais être plus proche peut-être, j'aimerais pouvoir avoir des conversations qu'on peut pas avoir. Donc j'accueille cette tristesse-là, mais je me dis que ça a sa raison d'être aussi et que c'est ça qui nous a certainement mise sur ce chemin de transmission aujourd'hui, parce que sinon, si c'était pas aussi important pour nous, on le transmettrait pas.
Oui, je le crois aussi, que c'était justement pour ça que on en est allé chacune vers nos spécificités et nos expertises maintenant, quoi. Sur les
Exactement.
prochains projets que tu as, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes prochains projets?
Écoute, là en ce moment, on parle beaucoup des hommes
Ah.
parce que on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans nos parcours. Hein. On a accompagné 300 femmes, je crois. Et les hommes, ils sont là. Hein. On en a toujours dans les parcours, mais voilà, c'est 10% à peu près. Et avant, j'étais coach, je travaillais pour les cadres dirigeants et j'avais énormément d'hommes hypersensibles dans mon cabinet. Et là, moins, parce que à partir du moment où on affiche cette étiquette, ça fait fuir les hommes qui veulent pas forcément être étiquetés là-dessus. Et je peux le comprendre, hein, et moi-même, j'ai jamais voulu trop être étiquetée avec l'hypersensibilité, qui a encore une connotation, je trouve, péjorative dans notre société. Même si j'essaye de redorer son blason, c'est quand même difficile. C'est considéré comme pas dans la norme, alors que c'est complètement dans la norme, hein. C'est ni une pathologie, ni une maladie. Ça n'est pas reconnu par la médecine, et c'est tant mieux. Voilà, un des projets, c'est les hommes. On a commencé des ateliers spécifiques pour les hommes, entre hommes, et on a envie vraiment d'aider les hommes hypersensibles à apporter ce qu'ils ont apporté au monde, parce que une de mes croyances, c'est que le fait que les hypersensibles soient pas forcément bien dans cette société, ne se sentent pas bien accueillis ou reconnus, bah, ils vont se camoufler, et du coup, ils ne transmettent pas ce qu'ils ont à transmettre. Or, il faut de tout pour faire un monde, et cette hyper-empathie qui va avec l'hypersensibilité, c'est hyper bénéfique pour l'humanité et pour la société. Et si on se cache, et si on veut faire avec ce qu'on n'est pas et on veut pas faire avec ce qu'on est, ben on n'est pas en train de transmettre ce qu'on a à transmettre, on n'est pas en train de vivre la vie qu'on est venu vivre. Et tout ça, c'est bien dommage. Et je crois que vraiment, il y a plein d'hommes qui se gâchent la vie avec ça et on veut les aider. Donc ça, c'est un des projets. L'autre projet pour nous, c'est vraiment de continuer à être les meilleurs, les leaders sur notre marché avec ce parcours en PathSup et cette option vocation et à pas s'éparpiller, justement. Moi, c'est vraiment un de mes projets de ne pas avoir d'autres projets que de faire de celui-là un parcours transformationnel incroyable. Aujourd'hui, on a 8 personnes dans l'équipe. On a encore eu une réunion tout à l'heure. On veut l'améliorer. On veut prendre du feedback. On veut faire mieux. On veut faire plus. Et donc, je veux faire ça. Voilà. Continuer là-dedans.
Contribuer, transmettre, pour que à leur tour les hypersensibles puissent contribuer et transmettre. Tu crées une
Exactement.
boucle, tu crées un cercle vertueux autour de toi sur le monde hypersensible.
Oui. Oui, exactement. Et on aide vraiment tous les hypersensibles. On a plutôt des cadres dirigeants, mais pas que. On a des professions libérales, puis on a des mères au foyer. Enfin, on a vraiment tous les hypersensibles qui ont tendance à en souffrir et qui veulent faire un travail sur eux. Et vraiment, mon but, c'est d'en aider un maximum. Il y en aurait 17 millions en France. Je pense que au moins un quart d'entre eux en souffrent. Donc, c'est vraiment de les aider. On apporte beaucoup de contenu gratuit. Et évidemment, quand on fait un parcours de transformation, c'est beaucoup mieux. Et on voit vraiment des gens revivre, renaître. s'ouvrir, s'épanouir et être capable de transmettre à d'autres. Et ça, c'est notre plus grand bonheur.
Donc, on peut proposer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se sentiraient concernés ou curieux, ou qui pourraient aussi se renseigner pour quelqu'un de proche, d'aller faire peut-être le test de, je crois, tu as une conférence qui est liée avec ce test, que les gens peuvent regarder. Est-ce que tu veux nous la présenter en quelques mots?
Oui, bah dans cette conférence qui est offerte, on présente les 5 étapes. En fait, c'est même 5 étapes plus une, il y en a 6, pour faire de l'hypersensibilité une force et pour sortir vraiment des travers de je m'épuise, je me plie en quatre, je m'oublie, je prends pas ma place, je me fais bouffer et je ne sais pas me préserver. En général, si on fait le test, il y a un moment où on vous propose la conférence. Et si vous faites la conférence, on vous envoie le test et vous trouvez tout ça sur www.amessciences-academy.com.
Tu es aussi assez active sur Instagram où tu fais des réels, des vidéos, donc pour mieux décrire, pour mieux comprendre. Et puis il y a pas mal d'humour aussi. Tu détournes des vidéos qui sont déjà faites en textant et en sous-titrant en mode hypersensible. Donc pour les curieux et pour ceux qui ont envie de se détendre, je conseille aussi de te rajouter sur Instagram. On mettra tous les liens en description. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme petit mot de la fin?
Merci à toi pour cette interview déjà et puis pour tout le beau parcours que tu as fait toi-même et de voir à quel point tu l'incarnes et tu le transmets aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire aux hypersensibles qu'il y a beaucoup d'espoir, que le monde est en train de changer, les leaders de demain seront hypersensibles et qu'ils ont une responsabilité. Il y en a plein qui s'énervent quand je dis ça parce qu'ils ont déjà tellement de poids de culpabilité, ils confondent culpabilité et responsabilité. Quand je leur dis responsabilité, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de le faire et qu'ils auraient dû le faire et que s'ils le font pas, c'est des mauvais. Mais je crois vraiment qu'on a une responsabilité d'endosser un leadership empathique et d'aller mettre en place les changements qu'on veut voir dans le monde. Arrêter de se plaindre que le monde va mal alors qu'on ne joue pas notre rôle parce qu'on a peur ou qu'on se fait critiquer. Il faut dépasser ça et je crois qu'en se fédérant, en communiquant dessus, en se rendant compte qu'on n'est pas seul, en se rendant compte que il y en a qui arrivent et qui arrivent à faire des petits changements. Je crois pas qu'on soit mégalo, donc on n'a pas envie de d'être des présidents de la République, mais il y en a qui sont engagés dans des actions collectives, dans des actions communautaires, mais même dans l'entreprise. Prendre un peu de responsabilité dans l'entreprise ou créer des entreprises. Moi, c'est un peu ça mon message parce que je sais qu'il y en a plein qui sont dans des associations, etc. Mais c'est peut-être pas là qu'ils ont le plus d'impact. C'est quand même aujourd'hui, on est dans un monde économique, qu'on le veuille ou non, qui est drivé par les entreprises. Et donc, prenez votre place dans les entreprises. Prenez votre place de leader.
Le message est passé. Je suis assez touchée de voir tout le chemin parcouru en 2 ans. Hein, on l'a dit, j'ai participé à deux de tes parcours. Et puis, on a eu pas mal d'échanges aussi sur mon début dans l'entrepreneuriat, sur ma façon de deuxier aussi l'éducation que j'avais reçue et l'éducation nationale en parallèle. Et au tout début, quand j'ai rédigé ma bio sur mon site internet, je n'avais pas mis que j'avais découvert mon hypersensibilité et mon haut potentiel. C'était quelque chose que je n'assumais pas. Et maintenant, je me rends compte 2 ans après que je n'attire à moi que des clientes qui sont en réalité ou au potentiel ou hypersensibles ou abîmées par l'éducation nationale ou en recherche de faire autrement pour leurs enfants. Donc, tu as permis aussi que je ne tourne pas en rond dans mon petit radeau parce que j'avais l'impression d'être sur la mer dans mon petit radeau avec mes rames, mais de ne pas savoir du tout dans quel sens aller. Et de me proposer au moins des directions pour apprivoiser mon hypersensibilité, pour mieux comprendre comment je réagissais et comment faire autrement. Et maintenant, je transmets aussi à mon tour aux mamans qui sont prêtes à entendre qu'on peut moins souffrir de nos émotions fortes, qu'on peut moins souffrir de ne pas comprendre le comportement de nos enfants. Donc, je te remercie aussi à mon tour pour tous les parcours que tu as su créer, toutes les rooms, clubhouse que tu as pu diffusées et qui malheureusement ne sont pas en replay, celles-là, parce qu'à l'époque, il
Non.
n'y avait pas de replay, parce que ça t'aurait lancé un podcast entier avec toutes ces rooms-là si à l'époque, il y avait eu des replays. Retrouvez Sophie, si vous voulez, dans ses conférences en ligne et puis sur ses réseaux sociaux. Tu as un groupe Facebook aussi qui est ouvert au grand public et on vous mettra le lien dans
Ouais,
la
je crois que c'est
légende.
les leaders hypersensibles et empathiques, le dernier nom du groupe Facebook. Et sur Clubhouse, il y a quand même 3 rooms qui sont en replay, mais c'est vrai que les 60 rooms qu'on a faites, malheureusement, n'y sont pas.
Ça vous donnera un aperçu aussi de tous les sujets qui sont concernés par l'hypersensibilité. En tout cas, merci pour ton temps, parce que tu as, en tant que chef d'entreprise, beaucoup de choses à cocher. J'ai pu voir ça dans les coulisses. Donc, merci de m'avoir accordé ce temps et merci de m'avoir permis de décoder toutes ces informations autour de l'hypersensibilité, des émotions et le lien avec la communication non violente. C'était très précieux sur ces 2 dernières années. À très bientôt, Sophie.
À très bientôt, Séverine, et merci pour tout. Merci pour cette interview. Je t'embrasse fort.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!